entendez ce bruit, c'est le bourdonnement de centaines d'insectes sur les fleurs de Madame Kiwi. Alors, il y a des bourdons, il y a des abeilles et leurs pattes sont chargées de pollen. Ça sent bon! Alors, c'est le kiwi qui est juste devant et au-dessus de la porte de notre boutique à la ferme. Donc, ça fait beaucoup d'ombre. La boutique reste bien au frais, c'est génial. Par contre, donc, comme je vous le disais, c'est Madame Kiwi et on n'a pas de monsieur. Donc, il y a des fleurs, mais on n'a pas de fécondation, donc les kiwis n'arrivent pas à terme. On a essayé de greffer, mais elles ont gelé. Enfin bref, ça n'a pas marché. Mais il y a un bourdonnement incroyable. J'espère que ça arrive à capter le son. Et elles ont leurs petites pattes pleines de pollen. C'est trop mignon. Ah, il y a même des... Je sais pas le nom des cirfs, là. Des petits insectes qui imitent les abeilles, mais qui sont pas des abeilles. Bon, allez, je vais ouvrir aux poules. Alors, je suis au tunnel, là. La saison des agnelages est clôturée par la naissance d'une très, très jolie agnelle, en fait. Alors, elle a le bout du nez noir et les deux petites oreilles, le bout des oreilles noires. Alors, c'est une maman en pchir croisée avec un bélier limousin. Et c'est une femelle, donc on la garde. Ah, c'est super. Alors, la maman est très maternelle. Elle est pas très contente, d'ailleurs, que je m'approche trop près. La petite a un ventre bien rond, donc je crois qu'il y a du lait. Là, elle tape du pied parce qu'il y a Lopi, mon chien, derrière moi, donc elle est un peu inquiète. Oh là là, ce petit nez, oh, c'est magnifique. Bon, ben voilà pour les agnelages 2020, ça s'est plutôt bien passé. Il y a eu deux morts-nés, je crois, où j'ai aidé trois agneaux à sortir. Il y a eu 16 morts, 16, 148, je suis pas très bonne en calcul mental. Donc voilà, on est à un taux de perte autour de 14%, je crois, ce qui est plutôt pas mal. Il y a une semaine, les premiers agneaux avaient 100 jours. Tout le monde est après la tonte, j'ai mis tout le monde ensemble. Donc là, la semaine prochaine, eh ben, ce sera le moment de commencer à trier, donc à sevrer les plus gros agneaux de leur maman. Enfin, ce sera plutôt l'inverse, on va laisser les agneaux dans le troupeau principal. Et je vais faire un petit lot de brebis qui n'ont pas pris et de mamans qui peuvent quitter leurs agneaux. Bon, bah ça se termine bien. Ce matin, il fait un peu plus frais, c'est agréable. Il y a eu une mini averse cette nuit. Et là, c'est nuageux. Je pense pas que les brebis aient très froid parce qu'il fait quand même pas très très froid. Bon, ah, les autres petits viennent. Là, c'est le tout petit lot de la fin. Il y avait 4 brebis qui avaient mis bas et puis il me restait ma dernière. Donc là, c'est fini. Voilà, je viens de changer le poulailler de place. Donc les poules sont contentes, elles sont dans une belle herbe verte. Il y a un chêne juste à côté pour leur faire de l'ombre. Je leur ai mis le grain, il faut que je leur amène l'eau. Et puis ce sera bon. Alors là, elle picore un petit peu les petites bêtes qu'il y a dans l'herbe. Elle mange un peu l'herbe. Oh, il y a une petite bagarre de poules. Et il y en a déjà qui sont dans les pondoirs pour faire leur petit œuf. Alors en ce moment, il y a une petite baisse de production. Je suis plutôt à 52-55 œufs par jour. Donc ce qui est encore honorable. Je pense que la chaleur est sur 73 poules, pardon. Je pense que la chaleur... les a fait diminuer un petit peu. Et puis mon premier lot de poules a quand même plus de 2 ans. Donc peut-être qu'elles commencent à moins pondre. Voilà. Oh là là, elles sont dans le métail là. Je vais faire une petite photo et je vous la mettrai sur l'article. Je suis en vélo. Je vais chercher le pain. Tous les mercredis, en fait, on va chercher le pain dans une ferme d'un voisin. Et c'est des paysans boulangers qui font le pain les mercredis et vendredis. Et on a notre petite commande et on va chercher notre pain pour la semaine qu'on congèle. Et c'est super bon.
Suite à mon précédent carnet sonore, le numéro 6, j'ai une question de By Gladys sur Instagram et YouTube qui me demandait ce que j'en faisais en fait de ma laine maintenant, parce qu'on a tondu il y a quelques jours. Et bon, je lui ai répondu par message, mais j'ai pensé que ça pouvait être intéressant de vous expliquer cette année ce qui va advenir de la laine. Donc depuis que je fais plus de transformation de laine de manière professionnelle, je ne garde plus la laine en stock pour la faire transformer. Pour la laine de mouton, j'en gardais déjà qu'une petite partie et le reste était vendu à un grossiste, à un négociant en laine en fait. Et donc depuis 5 ans, je faisais un tri de la laine assez minutieux. Donc trier, ça veut dire enlever les écarts, donc c'est le ventre, le bas des pattes, enfin tout ce qui est moins valorisable. Je secouais la toison, enlever la paille, le foin, enfin voilà. C'était quand même un tri assez consciencieux. Je faisais le même pour mon mohair que pour ma laine de mouton. Et la laine de mouton m'était payée 30 centimes, je crois. Donc en fait, ça ne remboursait même pas les frais du tondeur. Donc j'ai fait ça pendant 3 ans. Ouais. Et l'an dernier, en fait, donc j'ai de plus en plus d'animaux aux toisons noirs ou marrons. Et donc cette laine-là n'est pas récoltée. Ils prennent que la laine blanche. Parce que ils doivent pas avoir de débouchés pour l'azote laine. Fin. Donc l'an dernier, j'ai dit, bon, je garde ma laine, je la trie vraiment rapidement. Je garde ma laine noire et je vends la blanche. Donc les 3 premières années, ma laine a été classée en laine de bergerie. Donc c'est une laine qui est pas très bien payée, alors que mes bêtes passent que 2 mois en bergerie. Quoi. Et au moment de la tonte, elles ne sont plus en bergerie. Donc je trouvais ça bizarre et j'avais pas tellement confiance dans leur expert lainier. Et donc l'an dernier, où ça a été un chantier un peu précipité et chargé, j'ai trié, mais beaucoup moins finement en fait. Et ma laine a été classée plein air, donc mieux valorisée que la laine dite de bergerie. Donc j'ai trouvé ça vraiment très bizarre, puisque la fois où j'avais mis le moins de soins à trier, c'est là où j'ai été, entre guillemets, le mieux payé. Et la laine noire, donc, que je garde, en fait, je la mets en paillage, enfin, c'est pas un paillage, mais en lainage, disons, sur les arbres fruitiers et les petits fruits. Et en fait, depuis 2 ans, je vois vraiment la différence. Donc la première année où les pieds de framboisier, par exemple, qui ont été très bien lainés, se sont beaucoup développés, ont beaucoup grandi, fait des très belles pousses. Et les framboisiers où je n'avais pas eu assez de laine et dont j'ai juste mis du BRF, bois raméal fragmenté, sont plus petits, moins beaux et ont fait moins de rejets. Donc déjà, il y a 2 ans, je me suis dit, tiens, c'est intéressant de mettre la laine en paillage. Donc il y a un effet, disons, mécanique. Donc évidemment, ça empêche l'herbe de pousser. Ça retient l'eau, l'eau du sol, l'humidité, voilà, donc c'est bénéfique. Mais il y a aussi une propriété, disons, biologique, entre guillemets, de fertilisant de la terre, parce que la laine est riche en azote, et du coup, ça nourrit aussi le sol. Donc cette année, j'ai 4 curons de laine. Donc les curons de laine, c'est les gros sacs de laine qui permettent de stocker la laine pour la vendre après et la laver. Donc j'ai 4 gros curons comme ça, pas du tout triés. Cette année j'ai vraiment mis tout. Et donc ça va être notre paillage tiré lainage pour les framboisiers, les myrtillers également, et notre hectare de pommes, de vergers de pommes. J'espère que ça vous apporte un petit peu des informations. J'ai pas cherché vraiment de la bibliographie sur ce sujet, mais je pense qu'il doit y avoir. Et en tout cas, moi, je vois la différence au niveau du sol et au niveau du développement des arbustes. Donc après, j'en discutais avec un autre éleveur de moutons, et lui, il me disait pourquoi ne pas faire des nappes feutres pour le maraîchage ou le jardinage, le potager, qui remplacerait les bâches tissées en plastique. Bon, pour avoir les mêmes fonctions de occultation, garder l'humidité, limiter le mauvaise herbe. Donc voilà, c'est une idée, c'est peut-être à travailler. Mais en tout cas, cette année, la laine produite sur la ferme reste sur la ferme. Elle ne part pas, alors très très souvent, en tout cas pour la filière où je vends, mais ça part en Chine. C'est lavé en Chine, après ça revient et donc suivant la filière où ça doit partir, c'est redispatché vers d'autres pays, puis ça une partie revient en France et enfin en fait on la vend parce que ça nous paye entre guillemets une part de la tonte, mais de toute façon ça paye pas toute la tonte. Donc autant garder cette laine qui a poussé grâce aux nutriments de la terre quoi, de la ferme. Et revaloriser cette laine en fertilisant ces mêmes terres en fait. Donc voilà, la boucle est bouclée et ça c'est important. C'est important d'avoir des cycles en fait, des cycles fermés entre guillemets, que la part exportée de la ferme revienne sous une autre forme. Donc par exemple, l'engrais entre guillemets du maraîchage, c'est le compost des moutons, mais aussi sur les terrains. Enfin voilà, c'est la ferme est un ensemble complexe et pour moi, c'est une ferme devrait être l'assemblage de l'animal et du végétal. Et l'animal ne devrait être là que comme support de fertilisation du végétal. Mon objectif, c'est pas de produire de la viande pour produire de la viande, mais l'objectif, c'est d'avoir une ferme complète qui se nourrit elle-même. Donc, il y a quand même de l'export puisque nous, on vend des légumes et de la viande, mais tout ce qu'on peut récupérer, recycler, composter, on essaie de le faire et on essaie d'avoir un cycle le plus fermé et le plus enrichissant possible. Et ça, je l'aborderai certainement dans un autre carnet sonore parce que c'est évidemment en tant qu'éleveuse, c'est un sujet qui me touche, le sujet de la viande, de ce qu'on pense aujourd'hui, de ce qui est fait aujourd'hui. Mais mon souhait, c'est que la production animale, donc la production de viande plus particulière, et aussi de lait, d'œufs, etc., je pense que ça doit être vu, dimensionné pour soutenir la production végétale. Je pense que c'est que comme ça qu'on pourra redynamiser les sols, refertiliser les sols et recréer des cycles vertueux. Pour moi, l'agriculture ne peut pas être que végétale. Les animaux, et les ruminants particulièrement, apportent des bienfaits à la terre, au sol, inimaginables. Et je pense que c'est très important de s'en souvenir et de s'informer sur ce sujet parce que aujourd'hui on entend beaucoup, beaucoup de choses très intéressantes, beaucoup aussi de choses un petit peu simplifiées, voire de préjugés. Et pour comprendre l'ensemble, c'est quand même très compliqué, quoi. Bon, je suis arrivée à la maison, je vais me coucher et je vous reparle de ça demain, bientôt. Alors, la journée est finie et c'est le soir, il est 10h moins le quart. Et en fait, j'ai encore une petite tâche à faire, c'est fermer les poules. Donc en fait, il y a une petite trappe et le soir, je les ferme. Et en fait, l'été, j'avoue que elles se couchent tard avec le soleil en fait. Donc faut aller les fermer tard. Et j'avoue que je suis un peu... j'aimerais bien me coucher plus tôt l'été. Mais bon, ça fait une petite balade. Je passe à côté du champ de maraîchage en ce moment parce qu'elles sont le long du verger. Et ça fait une petite balade. On entend les grillons. Il y a encore quelques oiseaux qui chantent. Et voilà. Donc les poules, c'est vraiment une activité que j'aime beaucoup et qui est relativement rentable par rapport au temps passé. Alors mon problème au début, c'est que j'avais très peur des poules. Oh non, elles sont pas couchées. Bon, c'est pas grave, on va discuter. J'avais vraiment très peur des poules. Je pouvais pas attraper une poule. J'avais du mal à être dans un poulailler, par exemple, enfermé avec des poules. Enfin, j'avais peur des volailles, j'aimais pas la sensation. Quand j'ai arrêté mon activité laine, il y a un an, un peu plus d'un an, maintenant, il fallait quelque chose pour remplacer, en fait, le revenu, quoi. Et alors, la volaille de chair, j'avoue que c'est pas trop mon truc. C'est pas encore mon truc, peut-être que j'y viendrai, je sais pas. Mais les œufs, ça me plaisait. Et en fait, j'ai eu un déclic, je crois, par nécessité. Quand j'ai arrêté la laine, je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose qui se mette en place vite, avec peu d'investissement et qui rapporte un revenu assez rapidement. Et je voulais pas, comme la laine, devoir aller sur des marchés, faire des salons tous les week-ends. Enfin voilà, avec la petite, c'était devenu un peu compliqué. Donc les œufs, c'était un bon produit pour nous parce qu'on avait déjà notre vente à la ferme pour les légumes de Hugo et pour ma viande d'agneau d'herbe. Et les œufs, c'est vrai que c'est vraiment un produit qui se vend, enfin en tout cas pour nous, chez nous, dans notre système, dans notre contexte, c'est vraiment un produit qui se vend super bien quoi. On n'a pas besoin de chercher d'autres moyens de commercialisation. On vend tout à la ferme. Donc ça c'est chouette. Donc ça c'est plutôt agréable. Et puis au niveau temps, c'est vrai que je passe pas beaucoup de temps par jour. Je dois passer peut-être 30 minutes les jours où il y a que l'ouverture récolte des œufs fermeture, et puis après il y a le nettoyage une fois par semaine. Le déplacement du poulailler suivant la saison, c'est à peu près toutes les 3 semaines. Donc ça c'est vraiment une activité qui me plaît. Et en plus notre fille Helga adore les œufs, mange beaucoup d'œufs. Donc on ne perd rien. Bon, là il y a une petite poulette qui est encore dehors. Lopi l'a ramenée vers la petite trappe. Lopi, non. Et elle va rentrer, on pourra fermer et aller au dodo nous aussi.